Je veux leur dire, à l'ensemble de ceux qui pilotent l'État, je sais que beaucoup d'entre vous ont été marqués par les critiques, parfois injustes, qui ont été formulées à votre encontre. Le service aux usagers doit primer. C'est assez facile à formuler, c'est assez délicat à accomplir.
C'est aux fonctionnaires qui nous gouvernent, poliment mais fermement invités par le Premier ministre Édouard Philippe, qu'on vient d'entendre, à assister à sa restitution du grand débat, c'était la semaine dernière. On attendait les annonces d'Emmanuel Macron cette semaine, ce sera pour jeudi prochain finalement, mais ce qu'on sait déjà, c'est que la suppression de l'ENA, leur École Nationale d'Administration, est à l'étude. La France est-elle malade de sa haute fonction publique? Cible de critiques parfois injustes, dit le Premier ministre, d'autres seraient-elles donc parfois juste. On dit les hauts fonctionnaires distants, déconnectés, loin des réalités du terrain. Pourtant, le concours d'entrée est censé garantir une forme d'égalité et même de promotion républicaine. Un rempart contre la détestable République du Piston. Dans les faits, les inégalités de destin se jouent bien avant l'ENA, bien avant même Sciences Po et le baccalauréat. Dès l'école primaire, nous disent les comparaisons internationales, l'avenir d'un enfant français semble plus tracé qu'ailleurs. 4% d'enfants d'ouvriers à l'ENA, alors qu'un salarié français sur 3 travaille dans l'industrie. 24% de boursiers tout de même, répond l'école. Au-delà de la bataille de chiffres, une évidence s'impose à tous. L'exercice de l'État, titre d'un très beau film au passage, ne pourra jamais s'improviser. La réponse aux gilets jaunes passe peut-être par la refonte de la formation des grands commis de l'État, mais pour inventer quoi? Pour démocratiser le recrutement des hauts fonctionnaires, on inventa justement l'ENA. C'était en 1945.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Fabien Cazot.
Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine Écho du samedi. Un grand merci en ce 20 avril à Lauriane Toulmont qui nous accompagne à la réalisation, Maud Ventura cette semaine à la préparation, sans oublier Johanna Gabric en régie. Fin d'une semaine marquée par un gigantesque incendie et par ce débat sur la philanthropie pour aider à la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Bonjour Emmanuel Lechypre, éditorialiste à BFM Business.
Bonjour à tous.
Bonjour Christian Chavagneux, éditorialiste à Alternatives Économiques.
Bonjour.
Ça vous a surpris de voir toutes ces grandes fortunes françaises accourir au chevet de Notre-Dame ?
Moi, ça m'a pas surpris du tout. D'abord parce que l'émotion n'est d'aucune classe sociale, hein, finalement. Et puis surtout, non, c'est des réflexes d'entrepreneurs. Quand vous tombez, la priorité, c'est de se relever. Et donc voilà, c'est le message qu'ils ont voulu envoyer.
Non, c'est un grand classique historique. Au 19e siècle, les grandes fortunes étaient très impliquées aussi dans ce genre d'événement.
Ce sera notre débat dans quelques minutes. Ce n'est pas de la philanthropie, mais du crowdfunding en bon français, le financement participatif qui permet à des entrepreneurs de se lancer grâce à l'épargne des particuliers. Reportage à suivre. Nous parlerons ensuite financement de l'innovation et raison d'être des entreprises avec notre invité Thierry Breton, PDG d'Atos et ancien ministre de l'économie. Nous ferons un détour par les États-Unis où Donald Trump durcit le ton contre Cuba et les entreprises qui travaillent. Il pourrait y avoir des conséquences en France, on verra ça avec notre correspondant permanent à Washington, Grégory Phillips. Et bonjour Sandrine Foulon.
Bonjour Fabien.
Ma vie au boulot, votre chronique en fin d'émission. Vous allez nous supprimer des jours fériés.
Au revoir deux Fabien.
Merci beaucoup.
C'est la question d'Angélique qui veut savoir si cette piste sera choisie pour travailler plus longtemps et si elle est efficace.
Rendez-vous tout à l'heure à 10h05.
Le milliard d'euros devrait être dépassé. À elle seule, les trois plus grandes fortunes françaises, les familles Arnaud, Bettencourt et Pinault, ont donné un demi-milliard d'euros pour la reconstruction de Notre-Dame.
Tout de suite, quand on a vu le caractère catastrophique de ces images,
Antoine Arnaud,
on s'est réunis avec mon père et ma famille, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire.
Directeur général de Berluti, groupe LVMH.
Et ensuite, oui, on s'est mis d'accord sur ce chiffre. Au-delà de ça, nous mobilisons toutes nos équipes et nous leur demandons d'être disponibles pour cette reconstruction.
Mais c'est la démonstration que
Philippe Martinez,
quand on dit qu'il y a de l'argent dans ce pays,
secrétaire général de la CGT,
vous voyez qu'il y a des milliardaires qui ont beaucoup, beaucoup d'argent. Vous vous rendez compte, en un clic, j'allais dire 200 millions, 100 millions, ça montre aussi les inégalités dans ce pays et la misère sociale, ça continue.
C'est un faux procès,
Agnès Verdier-Molinier,
parce que finalement, ceux qui disent que
chercheuse à l'IFRAP,
c'est pas normal que certains trouvent de l'argent pour financer les travaux à Notre-Dame et qu'ils ne trouvent pas d'argent soi-disant pour financer la solidarité en général, c'est totalement faux. Qui paie l'impôt en France? Mais évidemment, en grande partie, les ménages qui déclarent des revenus Et ensuite, les entreprises qui créent de la valeur ajoutée et qui créent des emplois.
Moi, j'ai vraiment envie de leur dire, commencez par payer vos impôts, ça contribuera
Manon Aubry
au budget de l'État et donc au budget de la culture.
Tête de liste, La France Insoumise aux élections européennes.
Ils peuvent pas se payer une opération de communication en mettant leur nom potentiellement sur une pierre de Notre-Dame et de l'autre côté ne pas payer leurs impôts, lequel argent public devrait contribuer au maintien et à la préservation de notre patrimoine.
Moi, j'ai noté effectivement
Pascal Canfin
que la famille Pinault, et je viens de voir aussi la famille Decaux,
candidat La République En Marche aux élections européennes,
avait annoncé qu'elle renonçait à cet avantage fiscal de défiscalisation. Je pense que ce serait un geste salutaire et sain, bienvenu, que les autres familles qui mettent, et c'est heureux, des dizaines, voire même des centaines de millions sur la table pour reconstruire Notre-Dame, et c'est très bien qu'ils le fassent, mais que dans ce contexte-là, ils renoncent eux aussi au dispositif de défiscalisation.
Christian Emmanuel, on vient d'entendre l'ampleur des sommes qui ont été annoncées cette semaine pour reconstruire Notre-Dame. Des milliardaires donnent de l'argent, une polémique enfle aussitôt sur le fait que leurs dons ouvrent droit à des déductions fiscales et qu'ils sont donc subventionnés en quelque sorte par l'État. Franchement, qu'avez-vous pensé de cette polémique, Emmanuel Lechypre ?
Bon, c'est une polémique qui est très française, hein. Ça reflète un peu cette passion naïve pour un égalitarisme, qui est un égalitarisme un peu de conte de fées, dont on sait qu'il a produit que des résultats catastrophiques partout dans le monde, qui est déconnecté totalement des réalités internationales. Et puis c'est une passion naïve aussi pour un État que les Français sont quand même dans le monde. C'est ça qui est fascinant, mais c'est lié à notre histoire. C'est l'État qui a fait la France, donc c'est normal. On est les seuls à considérer que globalement, l'État est impartial, protecteur, juste, et qu'en fait, on y voit une espèce de carrosse de Cendrillon qui devrait s'occuper de tout, et en fait on s'aperçoit une fois de plus, parce que une fois de plus, c'est-à-dire que je trouve que la sévérité vis-à-vis des grands patrons n'a d'égal que la lâcheté vis-à-vis de cette mauvaise gestion des finances publiques, dont on s'aperçoit une nouvelle fois que ce domaine du patrimoine, là encore, on n'a pas les sous pour faire ce qu'il faudrait faire. Donc je me dis que ça va vous choquer ce que je veux dire, Thierry. Il y a beaucoup de Français qui méritent pas leur riche, en fait, voyez. Parce que n'oublions pas qu'un vrai pays pauvre, c'est pas un pays qui a beaucoup de pauvres, c'est un pays qui n'a plus de riches.
Christian Chavagneux, cette polémique.
Cette polémique, elle est pas dirigée contre les patrons, elle est dirigée contre les gens qui ont des très très grosses fortunes, et je pense que cette polémique, elle nous dit quelle est l'image qu'ont ces très très grandes fortunes en France. C'est l'image de privilégiés qui font sécession du reste de la société. Sécession de par leur niveau de fortune astronomique. On parle de 60 milliards d'euros pour M. Bernard Arnault, de 20 milliards d'euros pour François Pinault. Comment est-ce qu'une seule personne peut concentrer autant d'argent ? Donc il y a d'abord ce fait que ces riches sont vraiment trop riches par rapport à la société française, et puis ils font sécession par leur recours aux pratiques d'optimisation fiscale agressive qui marquent leur refus de payer des impôts à hauteur de leur fortune. Rappelons quand même que Kering, la société de M. Pinault, on parle pratiquement de 1,5 milliard d'euros de redressement fiscal, que M. Bernard Arnault a été pris la main dans le pot de confiture avec son yacht à Malte, et on parle de redressement fiscal d'un milliard lié à sa domiciliation en Belgique. M. Arnault a contesté et démenti tout ça. Donc tout ce qu'ils font, en fait, et c'est pour ça que la polémique est née, tout ce qu'ils font a pour motif soit d'étaler leur fortune, soit d'échapper aux impôts.
François-Henri Pinault, comme J.C. Decaux d'ailleurs, qui renonce à toute défiscalisation, est-ce que c'est ce qu'il fallait faire selon vous ?
Ce qu'il fallait faire, c'est ce qu'a dit Pascal Canfin. Il fallait mieux pas rendre public. En fait, c'est la vraie chose, le vrai acte de générosité.
Secret du don.
C'était bien évidemment l'anonyme.
Emmanuel.
Sur le côté hors sol, moi je veux bien, mais alors quand vous êtes par exemple LVMH, que vous faites 10% de vos ventes en France, mais que c'est 50% de vos impôts, que vous lâchez 1,25 milliard au fisc avec un taux d'imposition qui est plus élevé que la moyenne, que vous créez en moyenne 15 000 emplois par an, que vous recrutez 1 000 artisans, que vous formez 500 jeunes, que vous investissez 40 millions d'euros dans la formation, moi je considère que si tout les chefs d'entreprise et tous les entrepreneurs contribuaient autant à l'économie française, je trouve que ce serait quand même pas mal, parce que l'intérêt qu'a eu cette polémique quand même, c'est de montrer que finalement aujourd'hui, si vous n'aviez pas toutes ces grandes fortunes, vous iriez pas au château de Versailles, vous n'iriez pas au musée du Louvre, et donc quand Christian dit ils sont hors sol, moi je veux bien, mais ce sont quand même des entrepreneurs. Oui, c'est l'image qui donne.
Sauf
que la fortune de Monsieur Arnault, alors je veux bien qu'au début on va pas refaire l'histoire des fortunes Arnault et Pinault, c'est vrai qu'au départ ils ont bénéficié de coups de pouce de l'État, mais enfin après c'est quand même eux qui ont travaillé, voyez, pour voilà. Et eux, ils se sont pas demandé, comme beaucoup trop de gens dans ce pays finalement, qu'est-ce que l'argent des autres, comment ils pouvaient capter l'argent des autres. Ils se sont dit, on va plutôt essayer de bâtir nos fortunes. Et puis la polémique sur la défiscalisation, elle est totalement ridicule, parce qu'il faut juste quand même rappeler que cette défiscalisation, elle est plafonnée. Quand vous êtes une entreprise, c'est 0,5% de votre chiffre d'affaires, et que la plupart de ces entreprises avaient déjà consommé leur crédit d'impôt. La fondation Pinot, LVMH, etc., ils ont déjà toute l'année, ils font du mécénat, et donc toute l'année ils défiscalisent. Et donc là, c'est pas uniquement à cause de ces dons là que ils bénéficieront du truc. Et c'est vrai qu'il y a eu la maladresse de Jean-Jacques Ayagon, alors là pour le coup qui a été un peu malvenu, puisque Jean-Jacques Ayagon, il travaille pour la famille Pinot, et c'est lui qui a été le premier à dire il faut un nouveau dispositif de défiscalisation. C'était quand même pas très malin, effectivement.
Est-ce qu'on peut considérer que quand ces grandes fortunes choisissent de financer un chantier précis comme la reconstruction de Notre-Dame en l'occurrence, est-ce que c'est pas une manière pour eux en même temps de choisir où va leur impôt?
Bah, c'est la limite du mécénat. Mais je vais laisser Christian répondre. Mais la limite du mécénat, c'est que c'est formidable, mais que ça ne fait pas une politique publique. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne pouvez pas empêcher ces grosses fortunes de choisir les chantiers qu'elles ont envie de choisir, qui sont souvent des gros chantiers spectaculaires, au détriment peut-être de petits chantiers.
Mais c'est pas économique ou culturel, c'est une prise de parole politique devant l'opinion pour dire je suis généreux. Et cette prise de parole politique, elle s'effectue dans le cadre. Les historiens ont bien montré ça au 19e siècle. C'est une compétition de prestige entre grandes fortunes. Je mets 100, ben moi je mets 200, ben moi j'arrête de défiscaliser. Eh ben moi aussi, on voit que c'est une compétition d'honneur, une compétition de prestige entre ces riches Français. Il y a une part d'hypocrisie, hein, pour les quelques chiffres qu'on a, et qui sont difficiles à avoir, mais les quelques chiffres qu'on a montrent que nos riches Français contribuent beaucoup moins, donnent beaucoup moins que les riches étrangers. Et rappelez-vous que le chantier de Notre-Dame, c'était une galère totale. On a été chercher des Américains parce que ces riches Français ne voulaient rien donner. Là, il y a une émotion populaire, donc ils se mettent à donner devant tout le monde. Marcel Mauss nous l'avait dit, hein, le sociologue depuis le début du XXe siècle, le don n'est jamais gratuit. On attend toujours quelque chose en retour, et ce quelque chose, c'est on réaffirme la hiérarchie sociale. Le don reproduit l'ordre social. Il y a des donateurs avec des cagnottes privées qui donnent peu, qui sont anonymes. Il y a des grands donateurs qui assoient leur place dominante dans leur social et qui le font savoir.
Non mais Christian a raison, c'est-à-dire il faut pas être complètement naïf non plus. Évidemment que ces gens qui sont quand même devenus des grands capitaines d'industrie, ils ont envie d'être les premiers, ils ont envie d'être les meilleurs, ils se tirent la bourre, et bien évidemment, enfin, faut pas refaire là encore l'histoire de la concurrence entre la famille Pinot et la famille Arnault, mais bien sûr, mais après, je pense qu'il y a d'autres ambitions derrière ces dons. Il y a cette idée quand même de dire que aujourd'hui, quand vous êtes des grandes boîtes françaises, la marque France, ça compte. Et donc, être associé au redressement de Notre-Dame, c'est être associé finalement au redressement de la marque France. C'est une occasion de s'inscrire dans le long terme aussi, de dire on va financer ces grands travaux. Ça sort un petit peu des logiques toujours court-termistes. Et puis n'oubliez pas que dans ces boîtes, au moment où dans la loi Pacte on nous dit il faut que les entreprises elles s'élargissent, elles aillent vers le social,
ça a à voir parce que
les salariés de ces entreprises aujourd'hui, la réalité c'est que les salariés de ces entreprises aujourd'hui sont fiers d'appartenir à des entreprises qui ont d'autres objectifs,
qui payent les impôts, je pense qu'ils seront encore plus fiers.
Et puis l'idée derrière tout ça, elle est toute bête, c'est que il y a des millions de touristes qui viennent chaque année en France pour voir Notre-Dame, ce qui n'est pas le cas de Notre-Dame de Trifouillette, je sais pas où, qui fait pas venir des millions de touristes, qui mériterait peut-être autant d'être rénovée que Notre-Dame de Paris, mais ça c'est comme ça. Et l'idée c'est que si on veut attirer 100 millions de touristes en France, bah oui, il faut peut-être faire un effort exceptionnel pour Notre-Dame, ce qui permettra peut-être de vendre plus de sacs Vuitton et de fringues Gucci, mais oui, ça aussi ça fait partie
de l'ensemble. Mais c'est un substitut à la puissance publique avec des donateurs privés qui font leur propre choix. Geoffroy Roux-de-Bézieux, le patron du MEDEF, quand il a vendu la société dont il était propriétaire, a dit 10% de ma fortune, je le donne pour des œuvres d'intérêt général. On lui a dit, mais pourquoi vous faites ça? Réponse de Roux-de-Bézieux, je cite, si vous pensez que c'est l'individu qui fait avancer le monde, vous ne pouvez pas vous reposer uniquement sur l'État. Donc on voit bien que c'est aussi la volonté de contourner complètement la puissance publique, de contourner l'État de manière plus égoïste qu'altruiste. C'est une vision très très libérale du monde.
Mais ce que je comprends pas dans ce que dit Christian, c'est qu'en fait il y a une indulgence, mais terrible, pour les inefficacités, les gaspillages d'argent public.
Il y a du gaspillage d'argent privé aussi, Emmanuel.
Mais sauf que l'argent privé, il ne doit rien à personne.
Il ne doit rien à personne.
personne.
Il doit au monopole, il doit à l'héritage.
On force pas, on prend pas les gens, on réquisitionne pas les gens pour aller dans les magasins de Vuitton ou encore une fois de Gucci. Ils y vont tout seuls dépenser leur argent.
Et alors,
je veux pas et alors ça veut dire dons, que ces gens-là, l'argent, ils le gagnent parce qu'ils le méritent, parce qu'ils font des bons produits. Donc ils en font ce qu'ils veulent. Mais encore une fois, non, il faudrait toujours prélever plus, aller chercher l'argent là où il est, c'est-à-dire chez les riches, évidemment.
Prélever ce qu'il faut, pas plus. Et juste qu'ils payent leurs impôts à hauteur de leur,
parce que je me suis dit, je vais aller voir les chiffres fortune. Les pires sur cette soi-disant évasion fiscale. Les chiffres d'Oxfam.
Soi-disant évasion fiscale. Non. Alors là, vous allez vous faire des copains, Emmanuel.
Les chiffres d'Oxfam, c'est de dire, si l'impôt de ces entreprises avait progressé aussi vite que leur chiffre d'affaires, et j'étais très surpris par la petitesse des sommes, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, on nous dit, elles devraient payer à l'échelle mondiale, ces entreprises, 13 milliards d'euros d'impôts de plus sur les 5 ou 6 dernières années, ce qui fait 2 ou 3 milliards par an. Donc, effectivement, elle devrait peut-être payer ces 2 ou 3 milliards par an, mais vous voyez bien que là encore, on n'est pas à l'échelle des problèmes que ces prélèvements seraient censés résoudre.
Moi, j'ai d'autres estimations. C'est 40% des profits.
Je me suis dit, je vais aller chez Oxfam, parce qu'au moins, Christian Chavagneux, il ne pourra pas me dire c'est quoi vos sources aujourd'hui.
Gabriel Zucman, 40% des profits échappent à l'impôt. Donc, avec 40% des profits qui échappent à l'impôt, là, il y a de l'argent à récupérer.
Mais alors, il n'y a pas que Notre-Dame de Paris. Vous parliez, Emmanuel, de Notre-Dame de Trifouillette, mais il y a surtout tout un patrimoine en péril.
Il y a 44 000 sites en France.
Voilà, un loto du patrimoine. D'ailleurs a été instauré. Est-ce que c'est une bonne idée de rendre grand public ce sujet sur la philanthropie? Est-ce qu'on est tous des mini Bernard Arnault en puissance?
Renforcer l'addiction au jeu pour financer le patrimoine, je ne sais pas si c'est une bonne idée. À 15 euros le ticket au grattage, en plus, ce n'est pas réservé à tout le monde. Évidemment, c'est 3 euros au tirage, mais bon, je ne sais pas si c'est en renforçant l'addiction
même
au jeu.
Mais ça, c'est un truc de riche, vous voyez, finalement.
Et les dons aux associations, alors ça c'est moins un truc de riche, se tarissent, et c'est ce qu'on constate baromètre après baromètre, certaines associations qui voient, justement on en parlait, un effet pervers de la suppression de l'impôt sur la fortune, puisque ceux qui étaient assujettis pouvaient en défalquer une partie de leurs dons. Est-ce que ça plaide pour un rétablissement de l'ISF?
Je ne sais pas si c'est ça qui plaide, mais les apprentis d'Auteuil nous ont dit cette semaine le niveau de dons moyen est en baisse. Sous les 2000 euros, c'était pas arrivé depuis très longtemps en moyenne. Moins de dons, c'est l'un des effets pervers de la mesure d'ISF. Et dans les apprentis d'Auteuil, ils ont posé la question, vous qui êtes riche, vous qui payez l'ISF, vous avez économisé de l'argent avec cette suppression d'ISF, qu'est-ce que vous faites de votre argent? Et en fait, un, des dépenses de consommation, deux, de l'épargne. Et des dons à des organismes, uniquement 11%. Donc on voit bien, oui, il y a eu cet effet pervers très fort.
Il y a une baisse globale quand même de la générosité. Il faut pas se leurrer. Il y a eu tout un tas d'associations qui ont déploré cette semaine manquer d'argent alors que ça coulait à flot pour Notre-Dame. Il y a un phénomène que vous ne pouvez pas négliger, c'est l'émotion. Et il y a des tas de gens d'ailleurs qui donnent. Sans doute des particuliers qui donnent sans doute pour Notre-Dame, qui n'auraient de toute façon pas donné à une autre cause. Alors c'est toujours paradoxal de dire la défiscaliser, rétablir l'ISF pour pouvoir défiscaliser, c'est quand même un truc assez incroyable. Après, la réalité, c'est que les crédits d'impôt, elles sont faites pour inciter justement à orienter les choix des agents économiques. Donc oui.
En fait, l'outil fiscal n'est pas forcément le plus bon.
Et puis n'oubliez pas que dans la baisse des dons, il y a aussi la hausse de la CSG. Qu'il faut pas négliger, le prélèvement à la source qui fait que beaucoup de ménages savaient pas trop ce qu'ils allaient avoir comme de disponible, etc. Et donc oui, il y a une baisse globale.
Oui, mais en fait, on a des travaux d'économistes qui montrent que les Français sont peu sensibles en fait aux aspects fiscaux quand ils donnent. C'est pas parce que vous augmentez la défiscalisation qu'ils vont donner plus. Sauf les très riches Français qui sont beaucoup plus sensibles. C'est les travaux de Gabriel Fack et Camille Landais, beaucoup plus sensibles aux autres au fait que ils veulent bien donner si on défiscalise. Mais en fait, on s'aperçoit que les dons sont d'autant plus fort que l'État-providence est faible. Les dons au Danemark, c'est l'équivalent de 0,1% du revenu des Danois. C'est 0,3% en France, c'est 2,5% aux États-Unis. Vous voyez bien que moins il y a d'État-providence, plus les gens le contournent et passent à autre chose.
Donc défiscaliser la générosité, ce n'est pas forcément une bonne idée pour
c'est
vous.
Ce que je viens de dire.
Non mais le problème, c'est qu'on voit bien qu'on se trompe de débat. C'est-à-dire que placer le débat sur les riches, qu'est-ce qu'ils font de leur argent, ils pourraient en faire plus. Christian a totalement raison. C'est-à-dire c'est un retour à une forme de Moyen-Âge. C'est-à-dire que c'est renoncer à ce qu'il doit faire la puissance et la force d'un État-providence. C'est là-dessus qu'il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi l'État n'a pas les moyens d'entretenir le patrimoine? Et non, mais attendez, considérez que c'est finalement tout ce qu'on a entendu cette semaine, c'est que ce serait aux riches de compenser toutes les défaillances de notre système social, etc. C'est un retour à des temps archaïques. Et donc, il faut plutôt se poser la question, encore une fois, de la dépense publique, de la fiscalité, de l'efficacité de cette dépense publique, plutôt qu'encore une fois, de considérer que l'État manque toujours de moyens, sans regarder s'il est efficace ou pas.
Est-ce qu'il faut envier, selon vous, le modèle américain, si on regarde un petit peu au-delà de nos frontières, avec ces fondations king size, comme celle de Bill et Melinda Gates? On qualifie parfois ce système de philanthrocapitalisme. Est-ce que c'est imaginable, souhaitable en France, selon vous?
C'est du philanthro-libéralisme, en fait, hein, parce que la philanthropie doit être gérée comme un business, c'est un investissement qui doit rapporter comme n'importe quel autre business. Vous avez cité la fondation Bill et Melinda Gates, qui fait faire quoi? Améliorer la santé dans le monde. Et vous savez où est placée une partie de l'argent de la fondation? En action Coca-Cola, en action McDonald's, je sais pas si ce sont deux entreprises qui bénéficient quand même à l'amélioration de la santé dans le monde. Vous voyez bien que c'est pas la solution non plus.
Emmanuel?
La question, c'est est-ce que modulo les réserves que vient d'émettre Christian, il voudrait mieux au final que cette fondation n'existe pas? Je sais pas, je pense que compte tenu des résultats qu'elle avait sur des moyens de financement qui sont supérieurs à ceux de l'ONU, par exemple, je considère qu'elle a obtenu des résultats qui sont pas négligeables. Et puis je trouve qu'il y a un paradoxe à vouloir à la fois compenser les défaillances du public. On est bien content de trouver ces grosses fortunes pour ces actions-là. Alors après, on peut toujours moduler. Ils sont pas purs, ils sont pas parfaits. Mais encore une fois, toujours insister sur.
On pourrait passer par le public pour donner cet argent public.
C'est fini, alors on arrête.
Merci à vous deux. On poursuivra évidemment ce débat. On aura l'occasion d'y revenir à plein de reprises. On parlait des États-Unis, on va y rester car de philanthropie, il n'en est pas question pour les pays considérés comme ennemis par Washington, l'ennemi historique Cuba est la cible de nouvelles sanctions. Ça fait réagir jusqu'ici en France.
Today we are holding the Cuban government accountable for seizing American assets.
También el gobierno de Trump anunció nuevas sanciones contra Cuba.
Bonjour Grégory Phillips.
Bonjour Fabien.
Vous êtes le correspondant permanent de France Inter aux États-Unis et revoilà Donald Trump à l'offensive dans un de ses âpres combats commerciaux dont il a le secret, peut-être le goût, en tout cas l'habitude. C'est donc au tour de Cuba de subir les foudres présidentielles.
Oui, et ces nouvelles sanctions ont été annoncées par le patron de la diplomatie américaine, Pompeo. C'est pas un hasard. Cette semaine, le jour anniversaire du débarquement de la baie des cochons en avril 1961. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien, l'administration Trump réactive une loi qui date de 96, qui s'appelle la loi Helms-Burton, et dont le chapitre 3 dit que les entreprises, entités ou personnalités qui feraient du commerce avec Cuba peuvent être poursuivies en justice. La décision, normalement, doit entrer en vigueur le 2 mai prochain. Pourquoi maintenant? Eh bien, il y a deux raisons principales. D'abord, pour accentuer la pression sur le régime cubain, soutien de Maduro au Venezuela. Et puis aussi, et là c'est un peu du billard à plusieurs bandes, ça met aussi la pression sur l'Union européenne qui, on sait, est engagée dans un bras de fer commercial avec les États-Unis et qui sera touchée indirectement par ces sanctions.
Justement, il y a des groupes européens, même français, qui pourraient être touchés par ricochet?
Oui, alors il y a un enjeu assez simple. Hein. À Cuba, l'Union européenne est le premier investisseur étranger, c'est le premier partenaire commercial de la Havane. Ça veut dire que y a des entreprises. On pense par exemple au groupe hôtelier Accor ou au groupe Pernod Ricard qui demain théoriquement pourrait être poursuivi par la justice américaine si elle continue à faire des affaires avec Cuba. Autant dire que l'UE évidemment ne l'entend pas de cette oreille et pourrait très bien dans ce dossier saisir l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC.
Cet unilatéralisme américain a des répercussions sur le commerce et la croissance mondiale, mais fait-il débat aux États-Unis?
Alors vous savez, à partir de quand est-ce que ça fait débat? Eh ben, ça fait débat quand les produits américains sont touchés en retour. Souvenez-vous, Harley-Davidson, par exemple, l'été dernier, l'Europe avait imposé de nouveaux tarifs sur ses motos, et d'un seul coup, leur prix à l'importation avait été augmenté d'à peu près 2000 euros. Et là, évidemment, la politique protectionniste de Trump fait débat, et dans le Wisconsin, Harley avait menacé de délocaliser une partie de sa production, où ça, en Europe, pour échapper à ces tarifs. Donc oui, cette politique de sanctions américaines de tarifs est ici un vrai sujet de préoccupation pour les entreprises et pour les consommateurs, surtout quand les adversaires, parce qu'on est quand même là dans un vrai combat, notamment avec l'Union européenne, quand les adversaires rendent coup pour coup.
Merci à vous, Grégory Phillips, correspondant permanent de France Inter aux États-Unis. Merci d'avoir été avec nous depuis Washington. Quelle place pour nos champions français de l'innovation et du numérique dans un paysage dominé justement par les États-Unis et leurs GAFA? Le patron d'Atos, Thierry Breton, ancien ministre de l'économie, sera notre invité. Nous parlerons avec lui de la raison d'être des entreprises et de la sienne en particulier, puisqu'il s'apprête à en faire voter une à ses actionnaires. Rendez-vous dans une dizaine de minutes. Mais d'abord, c'est l'heure de notre reportage dans On n'arrête pas l'écho. Justement, on a choisi de s'intéresser aujourd'hui à un mode de financement alternatif des entreprises qui peut aider des startups à grandir et se développer. En bon français, le crowdfunding, du mot crowd, foule, et funding, le financement par la foule. Tenez par exemple, pourquoi ne pas financer une entreprise de livraison de légumes à domicile ?
Alors là, on est à La Défense et on va rencontrer Laura Giacherio, qui a cofondé avec sa sœur une petite entreprise qui s'appelle La Charrette et qui est une sorte de blablacar pour les petits producteurs qui travaillent en vente directe.
Bonjour, Anaëlle.
Enchantée, Laura.
Enchantée.
En fait, La Charrette, c'est un site de colivraison pour les producteurs. En fait, l'idée, c'est de les aider à pouvoir livrer quand ils font des ventes en direct. Et en fait, on l'a financé grâce à une campagne de crowdfunding qui était un peu particulière, qui était en royalties.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire en royalties ?
Alors, royalties, ça veut dire que ce ne sont pas des dons, c'est pas non plus une entrée dans notre capital. Ça veut dire qu'en fait, les gens qui nous ont, entre guillemets, prêté de l'argent, on va leur rendre quand on aura du chiffre d'affaires.
Ah oui, vous n'êtes pas forcément obligé de rembourser. Si jamais vous ne faites pas de chiffre d'affaires, l'argent est perdu pour eux.
Ouais, exactement. C'est un investissement qui est très risqué pour eux. C'est pour ça que c'est du crowdfunding. Donc en général, les gens y mettent des petites sommes, c'est des particuliers. En revanche, si jamais le projet fonctionne, il y a un retour. Nous, le retour, on a prévu à x2. Donc normalement, quelqu'un qui nous a prêté 100 euros l'année dernière pourra récupérer 200 euros sur les années qui viennent via notre chiffre d'affaires. C'est juteux quand même.
Juteux, risqué, mais en plein essor, il y a aujourd'hui en France environ 170 plateformes de financement participatif. Pas seulement des cagnottes, non, de véritables outils pour investir, placer, parier son argent dans des projets auxquels on croit. Une manne bienvenue pour de nombreux petits entrepreneurs qui ont du mal à se lancer et à qui les banques hésitent à prêter parce que justement, ils ne se sont pas encore lancés. Le crowdfunding Tous Investisseurs, c'est un reportage d'Anaël Verzou.
On est toujours avec Laura Giacherio, donc je rappelle, vous avez cofondé la petite entreprise La Charrette. Et du coup, vous avez obtenu combien grâce à votre campagne de crowdfunding ?
Alors, en fait, on avait mis un premier cran à 10 000 euros, qui était un peu l'extrême minimum pour faire un site qui pouvait marcher. Et en fait, ça a tellement bien marché que finalement, on a obtenu un peu plus de 20 000 euros. Donc, c'était le double de notre objectif.
Et Laura, est-ce que vous auriez pu passer par un crédit bancaire ? Pourquoi d'ailleurs est-ce que vous n'avez pas passé par un crédit bancaire classique ?
En gros, les banques, elles sont assez frileuses quand il s'agit de prêter de l'argent à un projet qui n'existe pas encore, entre guillemets. Nous, à l'époque, on avait vraiment qu'un site qui était un site d'annonce sur lequel on pouvait absolument pas prouver qu'on aurait un chiffre d'affaires, que les utilisateurs allaient se mettre à payer quand ce serait payant, etc. Et les prêts bancaires, c'est arrivé après.
Ah, vous avez quand même obtenu des prêts bancaires.
Oui, exactement. Cette campagne-là nous a permis d'avoir un site qui nous a permis de générer du chiffre d'affaires, qui nous a permis d'aller dans une deuxième étape de financement auprès de réseaux bancaires, qui sont des réseaux d'entrepreneurs aussi et des réseaux liés à l'entrepreneuriat social, mais qui sont des prêts qu'on n'aurait pas pu obtenir avant la campagne de financement participatif.
Et du coup, vous remboursez peu à peu les prêteurs ?
Ouais, alors le mois dernier, on a pu envoyer notre premier chiffre d'affaires à la plateforme We Do Good en leur disant bah voilà, on a gagné tant. C'était pas beaucoup, hein, je vous le cache pas.
Et c'était combien ?
Je crois que c'était 150 euros sur de chiffre d'affaires le premier mois. Et ensuite, c'est réparti entre les prêteurs. Et donc voilà, ça va être très progressif. Hein. Ça, on est en bonne voie pour rembourser.
Et du côté des plateformes, comment ça marche ? Les explications de Thomas de Bourreyn, fondateur du Crédit.fr, une plateforme de financement participatif qui soutient 520 petites et moyennes entreprises.
Alors Thomas de Bourreyn, vous triez sur le volet, hein. Vous avez eu, je crois, en 2018, 17 000 propositions, 17 000 candidats. Et vous en avez choisi, sélectionné que 180 sur
oui,
ces 17 000.
Effectivement, on est du fait que le funding est fait par notre communauté de particuliers et d'institutionnels, eh bien, on se doit d'être encore plus rigoureux sur l'analyse pour qu'il y ait un bon rendement pour nos investisseurs.
Là, par exemple, si on regarde, on est devant votre site internet et on a l'exemple d'une entreprise de menuiserie qui a été financée donc en 29 minutes
Un projet financé en 29 minutes ?
Oui, les collectes sont relativement rapides, en effet. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant la mise en ligne, il y a quand même toute une étude qui est faite grâce à nos algorithmes, à nos outils de décision et à notre équipe d'analystes. Et on s'engage à donner une réponse de principe sur notre site en quelques secondes et une réponse définitive en 48 heures. Et ensuite, comme on a une communauté importante, effectivement, la collecte se fait de façon très rapide. Et donc, non seulement on donne une réponse très rapide à l'entreprise, mais on est capable de lui débloquer l'argent de façon aussi très rapide.
En combien de temps vous débloquez l'argent ?
On débloque l'argent le lendemain de la fin de la collecte.
Alors là, si on regarde, donc, je continue avec cet exemple d'une entreprise de menuiserie. 70 000 euros ont été collectés. Il y a 468 prêteurs. Et là, donc, un taux d'intérêt de 6,60% et 24 mois, je vois écrit à côté. Qu'est-ce que ça signifie ?
Voilà, donc ça, les 24 mois, c'est la durée de l'emprunt. L'entreprise va rembourser en 24 mensualités. Et le taux d'intérêt, c'est celui qui est servi et qui est payé au prêteur. Donc, on a une grille de taux entre 3 et 8% qui, en fonction de la durée et de la qualité de l'entreprise, nous permet de classifier l'entreprise dans une classe de risque et donc de déterminer le taux qui va être payé par l'entreprise et servi au prêteur.
Plus l'entreprise semble risquée et plus le taux est élevé. Renaud Becvor est un ancien libraire à la retraite, amateur de bridge. C'est aussi l'un des plus fidèles investisseurs du Crédit.fr. Il a clôturé tous ses comptes bancaires pour placer son épargne sur des entreprises en développement.
Hello, oui.
Oui, Renaud Becvor, bonjour. C'est Anaël Verzo de France Inter.
Ah, tenez.
Alors, Renaud, à partir de quand est-ce que vous avez décidé de retirer votre argent des banques ? Et pour quelles raisons ?
Au cas livret me rapportait, et je me suis dit, bon, mais qu'est-ce que c'était que le crowdlending ? C'était aider les sociétés à se développer ou des gens qui n'avaient pas la possibilité de céder des banques à construire leurs entreprises. L'idée m'a plu tout de suite.
Renaud, dans quel type d'entreprise est-ce que vous investissez ?
Je fais attention à ceux qui ont le moins d'endettement. Les commerces, j'ai 230 projets auxquels je participe.
Est-ce que ça vous rapporte de l'argent ?
Aujourd'hui, oui. Comme le microcrédit, il faut être patient. Il faut compter 2 ans. Alors que si vous voulez, dans l'immobilier, il faut compter quand même beaucoup plus d'années et avec toujours l'angoisse que le promoteur immobilier puisse faire faillite, aussi mettre la clé sous la porte tout simplement. Alors qu'avec le crowdlending actuel, vous misez un minimum, vous laissez faire.
Et vous, ça vous fait un complément de retraite ou vous en faites quoi après ?
Ah ben, bien sûr, j'ai mis une retraite de libraire, autant vous dire qu'elle est doublée ou triplée.
Et est-ce que vous êtes déjà tombé sur des escrocs ?
Si vous voulez, personne n'est à l'abri de quelqu'un qui fait un faux bilan d'un gérant d'entreprise qui pète les plombs. Je sais que Crédit.fr a eu quelques désillusions vis-à-vis des requins industriels et de la finance.
Parce que qu'est-ce qui s'est passé avec cette société PMR ?
Eh bien, elle a décidé un jour de ne pas rembourser. Et puis, vous pouvez toujours courir après ce genre de requin, c'est pas possible.
Pardon, je regarde juste la société PMR. Il y a eu 100 000 euros de collectés et 623 oui. prêteurs.
Oui, je fais partie des prêteurs.
Et ça, la collecte a été réalisée le 24 novembre 2017.
Oui. On ne peut pas éviter les pièges.
Sur les 520 entreprises financées par le Crédit.fr, 30 sont en retard ou en défaut de paiement. Plus grave, des arnaques au crédit circulent sur Internet. L'Association française des usagers de la banque a repéré 60 fausses plateformes de crowdlending. Il y a aussi des entreprises factices, comme Rift, une start-up spécialisée dans les nouvelles technologies, qui a recueilli 4 millions d'euros grâce à des campagnes de crowdfunding et qui n'a jamais vu le jour. Son patron a été mis en examen pour escroquerie en mars 2018. La plateforme Landopolis préfère, elle, soutenir les grands groupes.
Nicolas Ferraudi, je dirige la société Landopolis. Nous sommes donc une plateforme de financement participatif.
J'ai lu donc sur votre site internet que vous aidiez la centrale solaire Total à Marenco Villeneuve.
Tout à fait.
C'est ça. Donc il y a 24 prêteurs, 100 000 euros.
Exactement. C'est une collecte qui allait relativement vite puisqu'on a eu 24 prêteurs qui ont souscrit les 100 000 euros en seulement 3 jours.
En regardant le projet, on se dit mais en quoi est-ce que Total a besoin de 100 000 euros pour pouvoir faire fonctionner cette centrale solaire ? Parce qu'on ne pense pas que Total a besoin d'argent,
non,
forcément.
Non, Total a besoin de 100 000 euros pour faire fonctionner la centrale solaire. Effectivement, elle le fait dans un cadre où elle s'est engagée lorsqu'ils ont été lauréats de l'appel d'offres qui leur donne l'autorisation de construire cette centrale solaire, à faire financer une partie de leur projet par la population locale. Et en échange, ils auront droit à une rémunération de 5% par an.
De quoi ?
Du montant investi. Donc si vous avez placé 1000 euros dans le projet, vous aurez tous les ans 50 euros d'intérêt qui tomberont un peu comme sur un produit d'épargne classique, un livret d'épargne que vous avez dans votre banque par exemple.
Florence de Maupéou, la directrice de l'association Financement Participatif France, voit dans le développement participatif un complément au système bancaire classique.
Évidemment, la plateforme ne pourra pas concurrencer un prêt bancaire qui est à peine 1%, qui est proposé aujourd'hui aux entreprises. L'entreprise va, si elle peut, se tourner plus facilement vers le prêt bancaire, qui sera peut-être moins cher, à moins de trouver d'autres raisons qui peuvent être la communication, la rapidité via la campagne de financement participatif.
Est-ce que d'après vous, d'ici à quelques années, les plateformes de financement participatif pourraient remplacer en partie les banques sur ce secteur-là ?
Je ne pense pas que ce soit possible, je ne pense pas que ce soit souhaitable non plus. Chacun son métier, la plateforme de financement participatif propose un service que la banque ne peut pas proposer. La banque propose beaucoup d'autres services que les plateformes ne peuvent pas proposer. Donc il faut vraiment avoir cet esprit de complémentarité entre les acteurs ou d'alternative quand l'un des acteurs fait défaut sur un marché.
Tous investisseurs, c'était un reportage d'Anaël Verzeau.
Tous les samedis sur France Inter à 9h10. On n'arrête pas l'écho. Fabien Cazot.
Quel financement pour l'économie, les entreprises, l'innovation technologique ? On va y revenir avec notre invité de ce samedi. Bonjour Thierry Breton.
Bonjour.
Président, directeur général d'Atos, un groupe à forte valeur ajoutée technologique. Vous fournissez toutes sortes de services numériques à vos clients, mais surtout vous transformez leur métier en les accompagnant dans leur mue digitale. 120 000 collaborateurs dans 73 pays, 13 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est dans l'actualité. Avez-vous donné, vous, pour Notre-Dame ?
Nous avons eu un élan d'abord d'émotion et de soutien de la part de nos 120 000 salariés dans le monde entier, pas uniquement les Français. Et en fait, il a fallu faire face effectivement à cette envie de s'exprimer, d'exprimer cette émotion. Et beaucoup de nos salariés ont voulu participer. Donc on a mis en place une plateforme en coopération avec la Fondation du patrimoine, de façon à ce que chacun puisse s'exprimer. Mais au-delà de ça, et j'ai entendu votre débat, il y a les entreprises. Le rôle d'une entreprise, c'est évidemment de fournir ses clients, de faire en sorte que ses salariés s'épanouissent, de faire en sorte aussi que tout l'écosystème dans lequel on opère opère de façon de plus en plus harmonieuse. Et puis il y a autre chose, et on le voit bien aujourd'hui. Il y a aussi qu'on doit dépasser ce cadre-là. Et c'est la raison pour laquelle nous, chez Atos, nous avons voulu précisément travailler très profondément sur notre raison d'être. La raison d'être, c'est au-delà, je dirais, des missions premières que j'ai rappelées très brièvement. C'est en fait de s'interroger de plus en plus au rôle que l'on peut jouer en périphérie. Bien entendu, on ne va pas tout faire dans la société.
Alors vous allez même la faire voter le 30 avril.
On va la faire voter le 30 avril.
Vos actionnaires.
Je crois qu'on sera du reste l'une des premières entreprises à le faire parce que c'est très important. Et voyez-vous, dans notre raison d'être, pour nous, c'est évidemment de contribuer au développement de la société de l'information, à l'espace informationnel, de contribuer à la promotion de la technique, du numérique, la formation des jeunes, le rôle auprès des universités. Et c'est précisément conformément à notre raison d'être que nous avons décidé, pour Notre-Dame, de contribuer en fournissant toute une gamme de services, de prestations, pour le 3D, pour l'intelligence artificielle. On ne va pas en faire de la publicité.
Des outils technologiques au service de la reconstruction.
Services, alors. Et des compétences humaines. On va le faire tout au long de la durée du chantier. Il va durer longtemps. On a la chance, du reste, d'avoir à notre conseil d'administration le général Georges Lain qui nous rejoint le 30 avril, et dont vous savez qu'il a été désigné comme étant le grand coordinateur. Donc, si les gens au conseil, il va être notre interface. Et nous allons lui fournir, précisément, tout au long de la durée du chantier, les prestations qui sont conformes, encore une fois, à notre raison d'être. Et vous voyez, dans le débat que vous avez eu, on peut se poser la question de l'intérêt social d'une entreprise. C'est pour ça que je pense que c'est important d'aller jusque-là, pour faire en sorte que c'est vrai, que pour nous, c'est légitime, ce sera voté par nos actionnaires.
Alors
ils vont donc soutenir le fait que nous pouvons...
Pourquoi c'est important, ça ?
Parce que À la fin, c'est l'argent des actionnaires. Alors on peut s'interroger, est-ce que finalement une grande entreprise pétrolière va donner de l'argent pour reconstruire Notre-Dame ? On s'en félicite, c'est formidable. Est-ce que finalement c'est conforme à l'intérêt social, l'objet social de l'entreprise ? On peut s'interroger, les actionnaires peuvent s'interroger. C'est pour ça qu'il faut aller plus loin et déjà anticiper. Et dire, ben voilà le champ dans lequel je propose d'intervenir. Si les actionnaires sont d'accord, on leur propose. Alors nous pourrons effectivement y aller, y compris mobiliser de l'argent, sans risquer, pardon d'aller jusque-là, c'est un peu extrême, surtout au regard de l'émotion mondiale. Mais dans d'autres cas, on pourrait éventuellement se faire taxer, vous savez, on appelle ça un abus de bien social, c'est-à-dire on dit, mais c'est pas l'objet social de l'entreprise. Et bien là, on va élargir un peu l'objet social de l'entreprise, de façon à ce qu'elle puisse intervenir, y compris dans des domaines tels que ceux que vous évoquez.
Alors, l'affichage de cette raison d'être des entreprises, encouragée d'ailleurs par la loi Pacte, votée au Parlement la semaine dernière, ne va-t-elle pas devenir aussi l'occasion pour beaucoup d'entreprises de faire de la communication à bon compte ?
Eh bien, c'est exactement ce que je viens de vous dire. À partir du moment où ça rentre dans votre raison d'être, pour nous, encore une fois, c'est clairement d'aider la collectivité à mieux s'insérer dans la société de l'information. Eh bien, dans ces conditions, vous êtes complètement dans votre objet au sens large. Et donc, vous ne faites pas de la communication. Prenons, vous avez parlé tout à l'heure d'LVMH ou des grandes entreprises de luxe. Et pour elles, l'image de la France fait partie quelque part de leur raison d'être. Donc, ils sont complètement, je dirais, dans cette mission. D'autres en sont plus éloignés. Et c'est vraiment la raison pour laquelle je crois que c'est très important pour éviter d'être, au fond, ces espèces de procès d'intention qui sont quand même un peu malvenus aujourd'hui, à partir du moment où on est conforme, encore une fois, à notre intérêt social élargi, c'est-à-dire notre raison d'être, cette question ne se posera plus. Donc moi, j'incite vraiment toutes les entreprises à s'intéresser à cela, d'autant que les jeunes, de plus en plus, veulent rejoindre une entreprise, bien sûr pour ce qu'on y fait, bien sûr pour les évolutions de carrière, mais aussi pour la raison d'être. Les jeunes veulent du sens aujourd'hui. Alors, les entreprises sont là aussi, pour donner un peu de sens, et on le voit aujourd'hui dans l'émotion que nous vivons.
Est-ce que la raison d'être, ça passe aussi par des ambitions sociales ou environnementales ? Vous êtes engagé, par exemple, sur un bilan carbone neutre des activités du groupe Atos. Cette promesse est-elle tenue ?
Et non seulement elle est tenue, mais nous sommes la première entreprise de services informatiques au monde à l'avoir fait, et nous sommes la mieux notée parce que nous effaçons toute notre empreinte carbone. Il faut savoir que dans nos métiers, nous opérons les données de nos clients. On stocke ces données, on les traite, on crée de la valeur avec, et ça, on fait ça dans ce qu'on appelle des grands centres, on appelle ça des data centers, où les leaders connaissent le mot, du cloud, qui nécessite d'avoir des fermes entières de serveurs très importantes,
dématérialisées,
et qui vont consommer énormément d'énergie pour faire fonctionner ces processeurs, mais aussi pour les refroidir. Et l'industrie du service informatique, de l'intelligence artificielle, aujourd'hui, génère plus de CO2 que tout le transport aérien du monde. Donc il faut qu'on efface, et c'est aussi ce que nous avons fait, et comme je l'ai dit, on est la première entreprise au monde à l'avoir fait, on efface entièrement notre empreinte carbone. C'est très important pour nous, c'est très important pour nos salariés, c'est très important pour nos clients, et c'est capital pour tous les jeunes que nous allons embaucher. Savez-vous que cette année, nous allons embaucher 20 000 jeunes.
Vous aviez aussi un programme zéro mail chez Atos, je crois.
Oui, ça procède aussi de la même...
Mail en interne entre les collaborateurs.
Oui, ou le moins possible, parce que là encore, c'est énormément de pollution. On le disait, un peu de pollution classique, parce que ça consomme beaucoup d'énergie, mais c'est aussi de la pollution du temps personnel des collaboratrices et des collaborateurs. Donc on essaye en permanence, vous savez, notre raison d'être à nous, c'est de contribuer à façonner l'espace informationnel. Donc on contribue à l'inventer, à l'améliorer jour après jour. Et c'est vrai que le mail est quand même un élément un peu archaïque.
L'espace informationnel, vous arrivez à vous faire une place à l'ombre des GAFAs américaines, ces géants du numérique, Google, Amazon, Facebook et Apple.
On est dans les 5 premières entreprises mondiales aujourd'hui en matière de services informatiques et des technologies de l'information. Donc oui, bien sûr, on y arrive, mais il faut pour cela être bien conscient de ce que nous faisons. Nous traitons et nous processons les données de nos clients. Et je le dis très clairement, pourquoi on a pu grandir ? Parce que nous avons un principe de base, c'est que nous disons à tous nos clients, et notamment nos clients européens, que les données de nos clients et les données des Européens doivent être traitées, stockées, processées en Europe, selon les critères et les lois européennes.
Vous qui êtes ancien ministre de l'économie, vous soutenez la démarche française de la taxation de ces GAFA?
Je soutiens le principe de la taxation de l'espace informationnel. Il y a eu l'espace territorial dans le temps où on a cultivé les terres. Il y a eu ensuite l'espace maritime. Il a fallu l'organiser. Il a créé de la valeur, cette organisation. L'espace aérien. Et maintenant, il y a l'espace informationnel. Il faudra des décennies pour organiser l'espace informationnel. On le voit tout à l'heure. Votre reportage précédent était très intéressant. On voit qu'on est en train de défricher, d'inventer des nouveaux modes. Eh bien, nous contribuons à aider tous ceux qui veulent défricher ce nouvel horizon qui est constitué par l'espace informationnel à mieux l'organiser, à mieux le réguler aussi. Et pour ça, il faut des moyens. Et les moyens, ça s'appelle l'impôt. Donc oui, il faut de l'impôt. Il y a des impôts terrestres, le cadastre, il y a des impôts aériens, il y a des impôts maritimes. Il faut aussi des impôts dans l'espace informationnel.
Une dernière question, Thierry Breton, pour revenir à l'actualité franco-française. Le grand débat, Emmanuel Macron fera finalement donc ses annonces jeudi. Qu'en attendez-vous? Qu'avez-vous retenu, plus largement, vous qui êtes ancien ministre, de ces mois de débats passionnés avec les Français?
D'abord, c'était important de renouer, je crois, avec les territoires. Et à travers ce débat, on a renoué avec les territoires. On a aussi dit aux Français qu'il n'y avait pas qu'une seule expression. C'est vrai que les gilets jaunes ont un peu artificiellement capté l'attention au cours des derniers mois. Ils étaient 50, 60 000. On a eu l'impression que c'était la France qui s'exprimait. Il y a d'autres France qui s'expriment. Le grand débat, c'est une autre France. 1,5 million de Français sur les 66 millions. Donc c'est pas tous les Français. Mais le fait de renouer avec le débat est important. Ceci étant dit, je suis convaincu que, comme François Mitterrand l'avait vécu en 81 puis en 83, comme Jacques Chirac l'a vécu en 95, comme Nicolas Sarkozy l'a vécu en 88-89, après 2 ans de pouvoir désormais, dans notre démocratie moderne, dans la Ve République, bien souvent, il faut changer de cap. Et je pense que ce sera l'occasion, vraisemblablement, pour le président de la République d'annoncer un changement de cap, peut-être même assez radical, par rapport à ses promesses électorales.
Merci Thierry Breton, président, directeur général d'Atos, ancien ministre de l'économie et des finances. Merci d'avoir été notre invité en direct ce matin.
Merci.
Ma vie au boulot, Sandrine Foulon, question sur les jours fériés alors que nous entrons dans le week-end de Pâques. Lundi sera donc férié, mais au-delà, tous les ponts du mois de mai ne seront-ils bientôt plus qu'un lointain souvenir? C'est la question que vous pose Angélique de Libourne.
Bon, les annonces d'Emmanuel Macron sont enfin programmées pour jeudi prochain. Et parmi les pistes qui ont fuité dans la presse, le chapitre « Travailler plus longtemps » intrigue, inquiète même. Comment allonger la durée du travail? Les heures sup détaxées, c'est déjà fait. Les 35 heures sont déjà largement détricotées. La perspective du départ en retraite continue de s'éloigner. Il reste, Angélique, la possible suppression d'un jour, voire de 2 jours fériés dans l'année. Pour les finances de l'État, la mesure est efficace. Elle rapporte près de 3 milliards d'euros par an, avec les contributions des retraités qui mettent aussi au pot depuis 2013. Les salariés travaillent un jour de plus par an sans être payés plus. Les employeurs, eux, versent une cotisation spécifique de solidarité de 0,3% de la masse salariale. Si nous devions donc abandonner 2 jours fériés supplémentaires, 6 milliards iraient directement renflouer les caisses de l'État. De quoi restaurer 6 fois Notre-Dame, mais c'est surtout pile poil le montant supplémentaire dont on aura besoin pour financer la dépendance dans 5 ans. Une fois qu'on a dit ça, le casse-tête commence. Supprimer un jour peut virer au cauchemar. Souvenez-vous du lundi de Pentecôte il y a 15 ans, il avait été déclaré jour de solidarité. 4 ans plus tard, le gouvernement avait changé d'avis. Désormais, c'est à chaque entreprise de choisir son jour de solidarité.
Mais qu'est-ce que ça change pour les salariés?
Alors, pas grand-chose si vous êtes en CDI dans une entreprise qui a signé un accord qui prévoit clairement les modalités du jour de solidarité, mais à supposer que vous changiez beaucoup d'entreprise, si vous avez déjà effectué votre jour de solidarité chez le précédent employeur, vous ne devez pas le faire 2 fois. Soit vous refusez, soit vous travaillez, mais vous êtes rémunéré. Et ça se complique si vous cumulez plusieurs employeurs, vous devez faire 7 journées au prorata de la durée contractuelle de travail. Si on passe à 2, voire à 3 jours de solidarité, il va falloir en remplir des tableaux Excel. Et quel jour férié le gouvernement pourrait-il supprimer sur les 11 qu'il nous reste? Une fête religieuse, ça risque de grincer le 8 mai ou le 11 novembre qui commémore les 2 grandes guerres mondiales. Le 1er de l'an, le 14 juillet, peut-on toucher à la fête nationale qui tombe cette année un dimanche? En attendant, Angélique, cochez les ponts sur votre agenda. Il en reste potentiellement 8 jusqu'à Noël.
Merci Sandrine, à la semaine prochaine.